tous les auditeurs du bien commun. En décembre dernier a été publié l'un des derniers cours de Michel Foucault au Collège de France, qui est en réalité l'un de ses premiers. Il est intitulé « La société punitive ». La lecture en est passionnante car on y voit en quelque sorte le philosophe au travail, 2 ans avant la publication de son grand « Surveiller et punir ». À un moment où tous les principaux concepts de Foucault sur la pénalité se mettent en place, ou plus exactement sur la forme sociale profonde qui est révélée à travers la généralisation de l'emprisonnement qui va se mettre en place au tournant du XXe siècle. Alors, le bien commun a le plaisir de recevoir pour commenter ce livre Frédéric Gros. Frédéric Gros est professeur de philosophie politique à l'université de Paris-Est Créteil. Il a édité un certain nombre des derniers cours, des vrais derniers cours de Foucault, et il est l'auteur, entre autres, du Principe sécurité publié aux éditions Gallimard. Frédéric Gros, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez remettre en quelques mots ce cours dans son contexte ? C'est un des premiers cours que Foucault fait au Collège de France.
C'est le 3e cours au Collège de France. Et j'allais dire, dans l'espèce de progressivité des premiers cours au Collège de France, on a eu un tout premier leçon sur la liberté, sur la volonté de savoir, qui portait sur la justice grecque. Le second, théorie et institution pénale, portait beaucoup plus sur le Moyen-Âge. Et là, on a le cours sur l'âge classique, 17e, 18e siècle et le 19e siècle, qui est le cours qui nous fait rentrer, j'allais dire, dans la modernité politique, qui reste quand même le champ de la séquence historique privilégiée par Foucault.
Et d'ailleurs, on va voir que il va penser non seulement à la nouvelle forme, mais il pense la transition la transition entre le modèle de la pénalité par la prison par rapport aux anciens modes de punition. Et il insiste beaucoup, il part même d'ailleurs de ce qu'il appelle la forme couvent. La forme couvent comme étant une sorte des prémices de l'emprisonnement.
Oui, prémices de l'emprisonnement, parce que ce qui frappe Foucault, c'est la manière dont on est au début des années 70, dont la prison a pu installer son évidence comme modalité pénale majeure, alors que cette instauration n'était absolument pas évidente. C'est-à-dire, il ne cesse de rappeler qu'effectivement, la prison n'était pas regardée comme une peine pendant l'ensemble de l'Ancien Régime. Elle redevient une évidence au XIXe siècle. Enfin, elle devient une évidence au XIXe siècle. Et au fond, quand on essaye de rechercher des espèces de prémices ou de racines à cette évidence, on trouve cette forme couvent justement comme lieu, et c'est ça qui l'intéressera, comme lieu disciplinaire.
Lieu de séquestration, dit-il, mais il ne s'arrête pas là. Il insiste beaucoup, c'est très surprenant et très intéressant, sur l'extraction du temps, sur le rôle que va jouer la maîtrise du temps et qui lui permettra de faire un lien très puissant avec la forme salariat.
Oui, alors ici, on trouve effectivement, j'allais dire, un branchement qui est beaucoup moins évident dans ce qu'on connaît, c'est-à-dire « Surveiller et punir » dans son livre maître sur la prison, c'est-à-dire cette articulation très serrée dans le cours entre la prison et le capitalisme. C'est-à-dire qu'il s'agit pratiquement d'écrire une espèce de pendant au Capital de Marx, ou même au livre de Max Weber, L'esprit du capitalisme, c'est-à-dire d'essayer de retrouver finalement quelles sont les racines du capitalisme, mais au niveau d'un travail du pouvoir sur les corps. Et ce que vous appeliez précisément cette extraction du temps, c'est-à-dire cette manière dont, par rapport à un temps de la vie qui est diversifié, qui se donne au loisir, qui se donne à ce qu'il appelle la dissipation, les processus disciplinaires vont précisément enrégimenter le temps, analyser le temps, faire apparaître des cellules de temps afin précisément de pouvoir brancher le corps de l'ouvrier sur la machine. Et c'est pas sans rapport avec la prison qui se construit, en tout cas à cette époque, comme un lieu marqué par des découpages temporels tout à fait nets. Oui.
C'est ça. Et une maîtrise du temps de façon à le rendre productif. Et puis aussi l'apparition de la solitude. Il y a un passage extrêmement intéressant. Vous parliez de Max Weber, où Foucault dit finalement le pouvoir, le supplice, c'est la majesté du pouvoir, c'est les insignes, c'est la cérémonie, c'est l'extériorité, c'est la ritualité qui se voit collectivement, qui impressionne collectivement. Et avec l'apparition de l'emprisonnement, il y a le besoin, quoi, la nécessité ressentie de travailler à partir de la solitude du détenu. Il écrit, je cite page 90, « Le rapport à Dieu n'a donc pas besoin d'être médiatisé par des objets et des rites. La piété n'est pas affaire des lieux sacralisés ou de moments privilégiés. À tout moment et en tout lieu, au fond de la solitude ou dans la communauté, tout homme peut rencontrer Dieu. »
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on a vraiment cette idée que finalement la punition était organisée assez largement comme spectacle au Moyen Âge, pendant même une bonne partie du siècle classique. C'est-à-dire qu'il s'agissait, quand on punissait, de montrer que chaque crime ou chaque délit était toujours en même temps un crime de lèse-majesté, c'est-à-dire insultait le corps du roi. Et précisément, la manière dont on allait écraser le corps du criminel de manière publique, c'était une organisation de ce corps à corps absolument à la fois dissymétrique et monstrueux entre un corps surpuissant du roi et un corps misérable dont on mettait en scène le déchirement. Et c'est vrai que la modalité punitive qui va s'organiser autour de la prison va supposer un traitement des corps complètement différent, puisqu'on est du côté de ce que vous appelez la réclusion, la solitude, l'enfermement, quelque chose de beaucoup plus caché, de beaucoup plus masqué, et dans lequel les processus de pouvoir qui seront en place ne seront plus du côté, j'allais dire, du spectacle, mais un spectacle toujours à la fois discontinu et brutal, mais précisément un pouvoir continu et doux qu'il appelle la discipline. Et c'est à l'intérieur de ce pouvoir continu et doux qu'il est possible peut-être de rencontrer Dieu, pour reprendre votre citation.
Non, je parlais de Dieu parce que vous parliez de Max Weber et de l'esprit du capitalisme, parce que je crois que c'est, il reprend l'argument weberien, où il même sans le citer, mais pour en lire tout à fait autre chose.
Il reprend l'argument weberien, c'est-à-dire cette manière de poser la question de l'éthique du capitalisme. C'est-à-dire que Marx aurait analysé de manière tout à fait nette, pour aller vite, la transformation de la force de travail en force de production, mais la manière dont les machines de production vont pouvoir extraire une certaine force de travail et revendre le produit de cette force de travail beaucoup plus cher que ce que coûte la régénération de cette force. Enfin, c'est toute la démonstration de Marx. Mais ce qui reste impensé chez Marx, c'est la transformation du temps de la vie en force de travail. Et c'est cette manière dont le temps de la vie peut devenir de la force du travail, qui relève de l'éthique au sens de la construction d'un rapport à soi, d'un rapport au temps, d'un rapport aux autres beaucoup plus séquencé, régulier. Foucault l'examine, mais ce n'est pas l'éthique du capitaine d'industrie précisément, comme Weber, c'est l'éthique de l'ouvrier.
C'est l'éthique de la
docilité.
C'est ça. Et c'est la migration, la lente migration du pouvoir d'une position d'extériorité par rapport au corps et par rapport et réclamant d'eux l'obéissance à une intériorisation des normes. Et d'ailleurs, c'est pour lui, il le dit, il y consacre quasiment un chapitre, à la création, à la constitution de ce que c'est qu'une norme sociale.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que Foucault a pu appeler à un moment le pouvoir de souveraineté, c'est-à-dire ce pouvoir qui est le pouvoir de la loi, le pouvoir de l'interdit, le pouvoir autoritaire, l'exercice de l'autorité, ne réclame jamais que des signes extérieurs de soumission, c'est-à-dire des postures, c'est-à-dire un certain nombre de gestuels qui sont des gestuels de déférence, de reconnaissance de la supériorité du pouvoir. Quand s'instaure un pouvoir disciplinaire, il ne s'agit plus de travailler ou d'exiger de simples signes extérieurs de soumission, mais toute une conformité interne du corps qui, au niveau de ses plis internes, doit intérioriser ce que vous appelez précisément des normes. Oui. Et cette normalisation des existences, Foucault l'étudie dans la société punitive, dans son versant d'ailleurs surtout et essentiellement moral. C'est-à-dire oui. C'est une moralisation mmh. des corps, c'est une normalisation des corps qui se fait de manière tout à fait massive au niveau du corps social le plus étendu, c'est-à-dire celui des ouvriers, des pauvres, des misérables, de ce qu'il appelle encore le prolétariat, etc.
Alors, le 19e, c'est le siècle de l'imitation, Gabriel Tarde, c'est-à-dire que c'est un siècle dans lequel beaucoup de philosophes, de pédagogues, de philanthropes sont obsédés par le bon modèle à imiter. Lui, Foucault, s'interroge approfondit l'idée d'habitude. Ce qu'il faut, c'est installer des habitudes dans la vie des gens.
Oui, il faut installer des habitudes, c'est-à-dire que alors c'est là aussi qu'on pourra s'interroger sur l'actualité de ce cours. C'est la grande obsession du siècle du 18e et du 19e siècle sera précisément d'attacher, de fixer l'ouvrier à la machine de travail, au lieu de travail. Et donc, il faut instaurer des habitudes, instaurer des régularités. On n'est pas du tout dans une exaltation de la mobilité, au contraire. Hein. Tout ce qui est du côté de la mobilité apparaît comme...
C'est le vagabondage.
Ah oui, le vagabondage est un crime crime économique, un crime moral, un crime social, etc. Il faut vraiment fixer l'ouvrier au lieu de son travail, et s'instaure cette idée des habitudes, et surtout des bonnes habitudes, et ça va de pair avec cette moralisation des existences, cette normalisation des corps, qui n'a jamais d'autre fonction, j'allais presque dire en dernière instance, que de pouvoir extraire de ces corps le maximum d'utilité, c'est-à-dire, au fond, pour le capitaine d'industrie, le maximum de profit.
C'est ça. Alors, continuons sur cette référence à la machine, au capitalisme, à l'industrie, parce que Foucault n'adopte pas ce qu'on pourrait attendre, ce qu'on attend d'un auteur de son époque, des années 70, c'est-à-dire la loi et le système pénal au renfort du mode de production qui vient garantir, en quelque sorte, sécuriser le mode de production. Et Foucault déroute ses attentes, déçoit ses attentes en disant la pénalité n'est pas la garantie de ce mode de production. Le pouvoir est dans la constitution même de ce mode de production. Et là, il y a quand même une avancée majeure.
Alors, il y a effectivement une avancée majeure. On est donc, c'est le début des années 70. Foucault venait de faire l'année précédente un cours intitulé, donc je l'avais rappelé, Théorie et institution pénale, dans lequel il examine justement l'aspect répressif de l'État. Le tournant dont on s'aperçoit dans ce cours, un tournant qui sera extrêmement important parce que quelque chose comme la marque de fabrique théorique de Foucault, c'est précisément de considérer la productivité, la positivité du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir ne vient pas simplement, vous le rappeliez, comme cette espèce de garantie externe qui vient simplement limiter, qui vient simplement fixer les choses et qui fonctionne. Je prends des repères marxistes, c'est-à-dire althusserien pour l'époque, qui va fonctionner par mensonge et par violence. C'est-à-dire simplement sur le mode de la contrainte. Là, on a un pouvoir qui est beaucoup plus productif, qui est beaucoup plus positif, qui instaure des habitudes, qui produit des savoirs et qui est vraiment quelque chose qui ne relève pas d'une pure négativité.
On a l'impression que Foucault se détache de plus en plus de l'idéologie, ce qu'il appelle « il faut se méfier des idéologies bavardes », dit-il, et qui se rapproche du concept de gouvernementalité qui va être central dans sa pensée, qu'il nomme pas en tant que tel dans la société punitive.
C'est pas nommé en tant que tel, parce que précisément, c'est pas nommé en tant que tel, parce qu'il continue à fonctionner avec le modèle, de la guerre, de la guerre civile, etc. Mais ce qui est certain, c'est que pour reprendre l'expression, le pouvoir est productif, et ce qui produit, c'est des savoirs, et ce n'est pas des idéologies. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas forcément du... Il y a une productivité du pouvoir qui fait que quelque chose comme l'entreprise des sciences humaines, par exemple, c'est-à-dire un ensemble de discours vrais dont on peut penser après ce qu'on veut sur la scientificité, profonde ou non, authentique ou pas, de ces savoirs. Mais enfin, ce sont des savoirs sérieux, garantis, etc. Et le pouvoir produit ces savoirs vrais et produit en général des discours de vérité. Et ces discours de vérité, simplement le fait de les dénoncer comme idéologie, j'allais dire, n'est pas très intéressant pour Foucault parce que ça fait rater quelque chose. D'abord, ça nous ferait croire qu'il existerait un vrai discours de la vérité qui serait le matérialisme historique, hein, qui serait au fond le marxisme comme version réelle, et ça raterait précisément cette productivité du pouvoir, cette productivité festive même du pouvoir.
Et cette dissémination, page 231, on peut lire « En effet, le pouvoir, ça ne se possède pas pour plusieurs raisons. D'abord, le pouvoir, ça s'exerce dans toute l'épaisseur, sur toute la surface du champ social, selon tout un système de relais, de connexions, de points d'appui, de choses aussi ténues que la famille, les rapports sexuels, le logement, etc. »
Oui, c'est vrai qu'on est à ce tournant dans lequel Foucault accepte de penser le pouvoir, ce qui est profondément... Enfin, ce qui est assez éloigné de notre philosophie politique la plus classique et la plus traditionnelle. Pour les philosophes, penser le pouvoir, assez vite, c'est penser l'État. C'est penser l'État, c'est penser le contrat social, c'est-à-dire c'est penser les conditions d'apparition, de genèse, de légitimation d'une autorité politique centralisée. C'est comme ça qu'on pense le pouvoir. Et je crois que ce que va apporter Foucault à l'ensemble de la pensée politique, c'est ce que vous appelez cette pensée beaucoup plus disséminée du pouvoir, où le pouvoir, en fait, est à l'intérieur de chaque relation, mais pas seulement celle... Pas seulement cette relation qu'on a privilégiée entre l'État et le sujet de l'État. Le pouvoir, il fonctionne à l'intérieur des armées, des usines, des couvents, des pensionnats. Il y a des modalités de pouvoir ou des modalités de ce qu'il appellera, pour reprendre votre question tout à l'heure, des gouvernementalités, des manières de conduire la conduite des hommes. Et c'est précisément là que se joue le grain le plus important pour nos existences du pouvoir, beaucoup plus que dans les mécanismes administratifs généraux.
Est-ce que ce n'est pas là la véritable percée de ce cours sur la société punitive ? Parce qu'on est frappé, vous le disiez, vous le suggériez au début de cette émission, que il y a un certain nombre de développements qui sont un peu datés sur la prison en tant que telle. Et par contre, il y a le sentiment d'une force grandissante et qui va s'épanouir dans le cours 79 et puis dans beaucoup d'autres écrits sur la gouvernementalité, la forme de pouvoir, la forme sociale, les institutions profondes ou le pouvoir comme une institution profonde de la société.
Alors, il y a effectivement presque un décalage dans ce cours entre la méthode mise en œuvre qui est extrêmement féconde et qui est, j'allais dire, extrêmement parlante pour nous, et le contenu même dans lequel il examine, j'allais dire, une prison comme lieu disciplinaire, c'est-à-dire comme la prison telle qu'elle pouvait exister et fonctionner au XIXe siècle, comme concentré de discipline qui a peu à voir avec la réalité actuelle des prisons, hein, qui ne se construisent plus autant comme des lieux absolument disciplinaires, avec des horaires absolument réguliers, du temps de travail, etc. Les choses sont très différentes aujourd'hui. Mais effectivement, la méthode est tout à fait impressionnante. Oui.
Et la méthode, et puis aujourd'hui, on peut aller plus loin avec Foucault, contre Foucault, certaines choses qu'il dit sur la prison et l'usine. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'hospitalisation à domicile, du bracelet électronique, du télétravail, du travail chez soi. C'est-à-dire, on est dans une externalisation qui masque la réalité peut-être de cette laisse électronique ou du maintien d'un rapport de pouvoir, mais qui s'est profondément reconfiguré, Frédéric Gros.
Ça s'est profondément reconfiguré parce que précisément cette figure de l'enfermement qui, pour Foucault, à l'époque où il avait pu décrire l'hôpital général dans Histoire de la folie, il va décrire dans Surveiller et punir ce qu'il appelle cette forme prison, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement paradigmatique de la sécurité est du côté de la séquestration, de l'enfermement et d'une manière de resserrer un corps entre quatre murs ou dans des réseaux de pouvoir extrêmement serrés. Et c'est vrai que la manière dont fonctionne le pouvoir aujourd'hui, ce qu'on appelle et ce que Foucault est prêt même à la fin des années 70 à appeler le contrôle, va beaucoup plus être du côté de l'accompagnement du mouvement, du côté de ce qu'on appellerait aujourd'hui la traçabilité. Et pour nous, quelque chose comme le principe de clôture ne fonctionne plus autant, j'allais dire, comme ce qu'il y aurait absolument à dénoncer.
Alors, ce qui est aussi frappant, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que dans Surveiller et punir et dans Société punitive, il y a encore cette perspective du pouvoir, d'un contrôle de l'intériorité, d'une orthopédie sociale, personnelle. Aujourd'hui, on a l'impression cette ambition de pénétrer l'intériorité un peu disparu. Et aujourd'hui, on est dans une des formes structurellement identiques, mais de contrôle plutôt par l'extériorité, par le consentement, contrôle du mouvement, contrôle qui n'a pas baissé la garde du tout, mais qui emprunte des voies nouvelles.
C'est-à-dire qu'on est dans des formes de contrôle qui sont des procédures d'infléchissement à la marge des comportements. C'est-à-dire qu'on ne va pas, on va infléchir des comportements de consommation, on va infléchir un certain nombre d'habitudes, mais l'idée précisément d'une subjectivation par normalisation, par intériorisation des normes, c'est quelque chose qui est beaucoup moins parlant. Il y a une espèce de hiatus très fort. On est au début des années 70, c'est-à-dire encore à un moment où quelque chose comme l'autorité, comme cette imposition de normes peut apparaître à la fois comme ce qu'il faut dénoncer, ce qui rend fou, etc. Et on est passé beaucoup plus aujourd'hui, j'allais dire, à une dénonciation de la faillite de l'autorité, de l'absence de l'autorité, et comme vous le rappeliez, à des procédures de sécurisation qui ne vont pas passer, j'allais dire, par des procédures d'intériorisation des normes, mais beaucoup plus par des procédures d'infléchissement graduel des comportements.
C'est-à-dire que, de la même manière que dans l'entreprise, on passe de la direction par la technostructure à un gouvernement par l'actionnaire, de la même manière que on a un passage d'un gouvernement de la production à un gouvernement par le consommateur aujourd'hui. On pourrait dire que c'est dans la pénalité aussi a suivi cette évolution. La peine est moins accrochée à la production, comme il le dit au début de la société punitive, mais paradoxalement, on a une pénalité qui est plus accrochée à la consommation.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, je pense qu'il s'agit beaucoup plus aujourd'hui, dans ces procédures de pouvoir, d'aménager un milieu. D'aménager un milieu afin d'infléchir les comportements, et on va aménager un milieu jusqu'à stimuler un certain nombre de désirs, beaucoup plus que s'adresser à la volonté précisément du sujet afin qu'elle puisse intérioriser un certain nombre de normes. Ça, c'est vraiment un passage tout à fait net et dont il ne dit rien, effectivement, dans la société punitive, qui est complètement pris encore dans l'ancien modèle du pouvoir.
Et pour cause, parce que il faudra attendre peut-être Deleuze, que dira Deleuze à la fin de pourparler, pour mieux comprendre l'évolution de la société de contrôle.
Oui, ou ce que dira même Foucault en étudiant le néolibéralisme.
C'est ça, dans le cours de 79, qui est un cours magistral. Alors, on doit cette édition à un travail remarquable fait par Bernard Harcourt, qui remet dans la dernière partie de ce livre, la pensée, la société punitive dans tout le parcours de Foucault, qui insiste beaucoup sur la société punitive. C'est un moment, c'est un Foucault très militant qui écrit.
C'est un Foucault très militant. Vous avez raison d'insister sur la qualité d'édition de ce travail. Les notes sont extrêmement abondantes. Et j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est que toute la littérature anglo-saxonne sur la prison, sur la pénalité est prise en compte et rend compte véritablement, j'allais dire, du grain théorique du cours le plus serré.
On a même quasiment trois niveaux de lecture. Il y a le cours de Foucault proprement dit, il y a ses notes et ce qu'il voulait dire, et puis les notes de Bernard Harcourt qui amènent d'autres lectures, d'autres réflexions, qui mettent en contexte.
Oui, on a véritablement un étagement qui est tout à fait passionnant là-dessus. Et c'est vrai que ce cours correspond à une époque de militantisme, j'allais dire très affirmé, dans lequel Foucault essaye de faire valoir toujours plus, et c'est aussi un des centres du cours, la différence entre le punitif et le pénal. C'est-à-dire qu'au fond, le pénal, qui serait simplement l'articulation d'une sanction à un acte défini comme transgression de la loi, et c'est peut-être quelque chose qui est important à repenser aujourd'hui, hein, si on essaye d'essayer d'évaluer l'actualité de ce cours. Ce qu'étudie Foucault ici, c'est la manière dont on va commencer à poser la question à propos de quelqu'un, et la prison est adaptée à cette nouvelle question. Au-delà de « qu'as-tu fait ?», et on fait correspondre la sanction, « qui es-tu pour avoir fait, cela ?» C'est-à-dire la manière dont on va articuler toute une anthropologie et dont des éléments de jugement vont être constitués par une appréciation psychomorale, pour aller vite, de la personne. Et quand on pense aujourd'hui, où une troisième couche, s'est ajoutée à celle-là. C'est-à-dire non seulement, bon, qu'as-tu fait, évidemment, il faut établir l'imputabilité. Qui es-tu pour avoir fait ça? C'est-à-dire avoir un portrait psychologique de la personne. Et vas-tu recommencer?
La dangerosité.
C'est-à-dire le problème, exactement, le problème de la dangerosité. Et la manière dont, pour calculer une peine ou pour juger quelqu'un, on va prendre en compte la virtualité de ses actes.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une prison externe électronique aujourd'hui? Ce sera ma dernière question. Est-ce que on est dans l'architecture numérique? Il n'y a pas aussi une forme de pouvoir qui aurait fait les délices de Foucault?
Oui, parce que le propre de cette architecture numérique, c'est quelque chose, on l'a cité, qui est bien montré dans son cours sur le néolibéralisme. Le propre des technologies numériques, c'est qu'elles produisent de la liberté. Mais le fait de produire de la liberté,
c'est la maîtriser.
Oui, elle produit en même temps que la liberté les instruments pour la contrôler et pour la gérer. De telle sorte que la liberté, aujourd'hui, n'est plus dissociable des processus de contrôle de cette liberté, puisque elle, en même temps que ces technologies créent de la liberté, elles créent les moyens de pouvoir la contrôler.
Il parlait du logement tout à l'heure, Foucault. Nous habitons ces architectures numériques.
Ah oui, tout à fait, oui.
Par rapport à surveiller et punir, est-ce que on voit dans la société punitive les prolégomènes de surveiller et punir, ou est-ce que c'est pas un livre assez différent de surveiller et punir?
C'est un livre, c'est une série de thèses différentes. Parce que, encore une fois, il y a une importance sur cette dimension de temps de la vie qui disparaîtra par la suite. Il y a une importance, il y a un vocabulaire qui est encore assez pris dans le marxisme. C'est-à-dire, oui, Foucault ne cesse de parler de la
parité. Il répond à Althusser.
Voilà, c'est un cours dans lequel le dialogue avec le marxisme est beaucoup plus serré que dans Surveiller et punir, où ce sera, j'allais dire, beaucoup plus détaché. Oui, où ce sera beaucoup plus détaché.
Eh bien, Frédérico, merci. Je renvoie tous nos auditeurs à la lecture de ce livre de Michel Foucault, édité, encore une fois, par Bernard Harcourt. Cette émission a été préparée par Victor Massé de l'Épinay, à la réalisation Viviane Noël et à la technique Emmanuel Morse-Duncan. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se reporter à la page du Bien commun sur le site de France Culture pour réécouter cette émission pendant 3 ans, la télécharger pendant 1 an et avoir les références au cas où ils n'auraient pas eu le temps de les prendre. Mais tout de suite, place à Question d'éthique, l'émission de Monique Cantos-Perbert.